Voici les textes liturgiques pour ce cinquième dimanche après l'Épiphanie. L'Épître est tirée de Saint Paul aux Colossiens. Mes frères, ayez au cœur comme élus de Dieu, saints et bien-aimés, ce que la miséricorde a de plus tendre, la bienveillance, l'humilité, la modestie, la patience. Vous supportant, vous pardonnant s'il a quelque sujet de se plaindre de l'autre. Oui, pardonnez-vous. Comme le Christ vous a pardonné, par-dessus tout, ayez la charité, le lien de la perfection. Que dans vos cœurs domine en souveraine la paix du Christ à laquelle aussi bien vous avez été appelés dans l'unité du même corps mystique et montrez-vous reconnaissant. Que la parole du Christ soit au large et chez vous avec toutes sortes de sagesse. Instruisez-vous, exhortez-vous mutuellement avec des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant la gloire de Dieu dans vos cœurs sous l'action de la grâce. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, rendant grâce à Dieu qui est aussi notre Père par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. On se lève pour l'Évangile, continuation du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit aux foules cette parabole. Le royaume des cieux a été rendu semblable à un homme qui sema du bon grain dans son champ. Tandis que les hommes dormaient, son ennemi vint semer à son tour de l'ivraie au milieu du froment et s'en alla. Lorsque le blé en herbe eut poussé, produisit son grain, l'ivraie parut avec lui. Les serviteurs du père de famille vinrent alors lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas avec de la bonne semence que vous avez ensemencé votre champ? Comment donc donne-t-il de l'ivraie ?» Il leur dit, « C'est le fait de mon ennemi. » Et les serviteurs de lui dire, « Voulez-vous que nous allions le ramasser ?» Mais il leur répondit non, de peur qu'en ramassant l'ivraie, vous n'arrachiez aussi le froment avec elle. Laissez-les croire tous les deux jusqu'à la moisson, et le temps de la moisson venu, je dirai au moissonneur, ramassez d'abord l'ivraie et liez-la en bottes pour être brûlée, mais le froment, recueillez-le pour mon grenier. Veuillez vous asseoir. Ici quelques annonces. Ce mercredi, nous aurons le cours sur les actes du magistère, en train de travailler toujours sur l'encyclique du pape Pie XII de 1950, Humani Generis, le troisième syllabus. Attention, cette semaine, donc messe tous les jours à 11h, sauf vendredi et samedi, pas de messe. Faites un petit peu attention dehors, j'ai changé encore les plaques qui sont dans le jardin, sur le côté du jardin. Pour que les gens puissent venir ici sans se mettre de la boue partout, c'est pas très facile. Alors attention avec les voitures, pas rouler dessus, parce que chaque fois que vous roulez dessus, ça peut m'arriver à moi aussi, elle casse.
C'est l'infirmière.
Hein ? Je sais pas. Peut-être, oui. Mais je sais pas qui fait ça, je suppose que personne ne le fait volontairement, mais faites attention de pas rouler dessus pour qu'elle ne casse pas. Attention aussi pour les retraites, donc. J'ai maintenant, je crois, 25 retraitants déjà inscrits. Donc la première retraite est déjà pleine. Donc n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Du 20 au 25 novembre, donc il y aura un certain nombre de personnes qui vont venir pour continuer de travailler sur la salle, cette fois-ci, qui sera sous la chapelle, la future chapelle. Donc on aura la chapelle, et en dessous, il y aura une salle. Et donc il y a aussi du travail à faire là-dessus. Donc, toutes les personnes qui pourraient éventuellement venir donner un coup de main, je sais bien que ce n'est pas très facile avec les activités familiales et professionnelles, les gens habitent loin en plus, mais s'il y en a qui pouvaient venir aider, soyez les bienvenus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, l'évangile d'aujourd'hui, cinquième dimanche après l'Épiphanie, nous parle du semeur de zizanie. Semeur d'ivraie, selon les traductions. Et les pères de l'Église ont plusieurs explications qui sont toutes très belles. Donc, ils parlent d'un champ avec un chef de famille, un père de famille. Ce champ, il y a plusieurs interprétations. C'est à la fois notre âme, c'est à la fois l'Église tout entière. Ça peut être notre famille, ça peut être notre chapelle. Et c'est un terre une terre que nous devons travailler. Chacun d'entre nous, nous avons charge d'une partie de cette terre et il faut la travailler pour que justement la terre soit bien préparée pour pouvoir recevoir le bon grain. Dans bien des cas, évidemment, cette terre à préparer, c'est tout simplement notre âme, l'âme de chacun d'entre nous. Et le bon Dieu souhaite, évidemment, dans cette terre, ne voir que le bon grain pousser, le blé. Et malheureusement, l'ennemi est venu pendant la nuit. L'ennemi est venu pendant la nuit et est venu semer de l'ivraie. Et les pères de l'Église, évidemment, se posent la question de savoir que représente cet ivraie. Il faut remarquer tout de suite que le bon Dieu a permis que cet ivraie pousse avec le bon grain dans le même champ. Il n'y a pas simplement du bon grain, il y a aussi de l'ivraie. Cet ivraie représente beaucoup de choses, selon les pères. Ça représente, pour certains pères, l'hérésie, tout simplement. L'hérésie qui vient se mêler au bon grain, c'est-à-dire qui vient se mêler à la doctrine de l'Évangile pour essayer de falsifier l'Évangile de Christ. Cet ivraie aussi, de façon plus générale, représente tout simplement le péché. Notamment, le péché contre la charité. Le péché contre la charité, ça représente aussi la haine, ça représente la tristesse, ça représente la confusion, ça représente l'obscurité de l'âme, ça représente la laideur, ça représente l'esprit du monde. Tout ça est représenté par cette zizanie. Et il faut bien noter une chose, encore une fois, c'est que dans certaines âmes, le bon Dieu a permis, plus exactement, c'est pas lui qui l'a mis, le bon Dieu a permis qu'il y ait au début que de l'ivraie. C'est qu'elle est convertie. Quand vous prenez l'âme d'un saint Augustin, par exemple, ou l'âme d'une sainte Marie-Madeleine, avant leur conversion, ben, il y avait évidemment surtout de l'ivraie dans le champ. Mais il faut bien marquer que le père de famille dit bien, attention, ne pas arracher l'ivraie tout de suite. Ne pas arracher l'ivraie tout de suite, laisser les deux choses croître en espérant qu'il va y avoir une séparation qui va se faire entre cet ivraie et ce bon grain. Et on le voit très bien chez des saints, grands saints comme saint Augustin et sainte Marie-Madeleine, pour reprendre ces mêmes exemples, il y en a beaucoup d'autres dans l'histoire de l'Église, des champs qui étaient envahis par l'ivraie et qui ont pu se purifier. Qui ont pu se purifier et finalement l'ivraie a été arrachée pour que le bon grain puisse apparaître dans cette âme. Beaucoup de saints ont très mal commencé, ils ont tous très bien fini. Donc beaucoup de saints ont commencé avec beaucoup d'ivraie dans le champ et ils ont fini avec que du bon grain dans le champ. Ceci justement montre bien le travail de la grâce, le travail du bon Dieu. Et il faut donc faire attention parce que, encore une fois, nous devons tous faire un examen de conscience, moi le premier d'ailleurs, pour voir s'il y a de l'ivraie dans mon champ. Il est rare qu'il y ait un champ parfaitement propre, sans ivraie, c'est presque impossible. À part l'âme évidemment de notre Seigneur Jésus-Christ, l'âme de notre Sainte Vierge Marie, il y a toujours un peu d'ivraie qui est mélangée au grain. Mais si on fait attention de s'occuper de l'ivraie, d'enlever l'ivraie avant qu'elle ne donne du grain, qu'elle ne fructifie, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile. Évidemment, si on attend beaucoup trop longtemps, à ce moment-là, cet ivraie va prendre complète possession du champ et après, ça deviendra de plus en plus difficile. Vous voyez d'où l'importance, mes bien chers frères, de faire cet examen de conscience. Les pères font aussi remarquer qu'en général, la source de cet ivraie dans le champ, c'est toujours l'orgueil. L'orgueil qui est là. Et l'orgueil qui nous fait préférer notre volonté propre à celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'orgueil va multiplier en quelque sorte, presque à l'infini, l'ivraie dans le champ. Et comme l'ivraie va étouffer le bon grain, plus il y a d'orgueil dans une âme, moins le bon grain peut trouver d'espace pour pouvoir se développer. Et j'ai trouvé une très belle citation là qui dit bien des choses. J'ai trouvé chez le site d'un de nos amis qui met des très bonnes citations. C'est une citation d'un homme que je ne connais pas du tout. Je suppose que c'est un Italien, Luigi, dans son livre du modérantisme ou de la fausse modération. Il dit ceci, j'ai bien aimé cette citation. « Ils vous abasourdissent en criant sans cesse au manque de charité. » Mais pour quiconque les connaît, ce reproche est au fond que le cri de l'orgueil froissé. C'est tout à fait notre vie. Nous aussi, on a cet orgueil qui travaille en nous. Il ne faut pas croire que nous puissions être exemples d'orgueil. Tous, nous avons un peu d'orgueil qui travaille, parce que l'orgueil est à la racine de tous les péchés. Et donc, le bon Dieu va nous donner les moyens de lutter contre cet orgueil. Et je crois qu'il est important, en cette fin d'année liturgique, n'oubliez pas que dans quelques semaines, nous serons déjà au début de l'année liturgique nouvelle, puisque pour un catholique, l'année commence au premier dimanche de l'Avent. Je crois que c'est au début du mois de décembre. Donc dans quelques semaines, c'est déjà la nouvelle année liturgique qui commence. Donc la préparation de la fête de Noël, avec le temps de l'Avent, eh bien il faut se poser cette question en ce début d'année liturgique qui arrive, et en cette fin d'année liturgique et la nouvelle année qui arrive, qu'est-ce que j'ai planté dans mon champ? Qu'est-ce que Dieu avait planté dans mon champ au début? Et qu'est-ce qui a poussé dans le champ? C'est pas Dieu qui m'est directement, évidemment, livré dans le champ. Mais c'est Dieu qui permet que l'ennemi de l'homme vienne mettre de livrer dans son champ. Et si je n'ai pas justement cette protection contre l'orgueil, à cause de mon orgueil, j'ouvre les portes, les grilles du champ en quelque sorte, pour que l'ennemi puisse venir mettre de livrer dans ce champ. Il va mettre l'orgueil. Et cet orgueil va détruire complètement le bon grain. Ce bon grain est symbole de la charité. Le bon grain est symbole de la charité, de même que la zizanie est symbole de l'orgueil. Alors il nous faut faire cet examen de conscience. D'abord, qu'est-ce que Dieu avait mis dans mon champ au début? N'oubliez pas que tous nous sommes baptisés ici. Le jour de notre baptême, notre âme n'avait, dans cette âme, dans la terre préparée de notre âme, il n'y avait que du bon grain, c'est tout. Il n'y avait pas de zizanie du tout, mais pas d'ivraie du tout. Et donc Dieu a voulu qu'il n'y ait que du bon grain dans notre âme. Dans une âme d'enfant qui vient d'être baptisée, il n'y a que du bon grain. On dit que l'ange gardien pleure le jour du premier péché de son protégé. Et malheureusement, lorsque le péché rentre dans l'âme, bien littéralement, on ouvre la grille de l'âme et on laisse le démon, l'ennemi de l'homme, on laisse le démon rentrer dans cette âme pour y planter l'orgueil. Et donc, posons-nous tous cette question, qu'est-ce que j'ai fait de mon âme pendant cette année qui s'achève? Est-ce que j'ai pris soin du bon grain qui avait été placé dans mon âme par le bon Dieu, par le baptême? Lorsque nous faisons une bonne confession, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous faisons une bonne confession, eh bien, c'est le bon Dieu qui lui-même vient arracher l'ivraie. Et si la confession est faite avec beaucoup de contrition, une contrition très forte avec la grâce du bon Dieu, c'est tout l'ivraie qui saute complètement. Vous voyez, donc, posons-nous cette question d'abord sur le passé. Qu'est-ce que j'ai laissé pousser dans mon âme cette année qui s'achève? Est-ce que j'ai laissé l'ivraie pousser dans mon âme sans protection, ou est-ce qu'au contraire, je me suis battu pour que l'ivraie puisse sortir de mon âme? Qu'est-ce que je vais planter et semer pendant cette année nouvelle? Les paysans, quand ils ont des terres, qui vont ensemencer, ils préparent un plan d'ensemencement, je suppose. Et ils vont décider, voilà, dans telle parcelle, je vais mettre telle graine, dans telle parcelle, je vais mettre telle autre semence, dans telle autre parcelle, je vais les laisser en jachère selon les nécessités du moment. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Nous arrivons en fin d'année liturgique, en début d'une année nouvelle, c'est la première question qu'il faut se poser, qu'est-ce que je vais planter dans mon âme? Plus exactement, il faut se poser la question, qu'est-ce que Dieu veut que je plante dans cette âme? Qu'est-ce qu'il attend de mon âme? Parce qu'encore une fois, toutes les âmes sont différentes. De même qu'un paysan ne va pas mettre la même semence dans toutes les parcelles de sa propriété. Il va mettre du blé dans une parcelle et une autre semence dans une autre parcelle, en fonction des besoins. De la même façon, Dieu ne veut pas qu'il y ait exactement la même semence dans chacun de nos champs. Chacun a un champ, chacun doit protéger son champ et doit demander avec humilité au bon Dieu quelle est la semence que vous voudriez que je plante dans ce champ. Et si le bon Dieu nous demande de planter du blé, il ne faut pas dire au bon Dieu, écoutez, le blé, ça ne me plaît pas beaucoup, moi j'ai planté de l'orge. Dieu attend que nous plantions ce qu'il veut dans notre âme. Et donc pour ça, il faut savoir demander. Et donc si je me rends compte qu'au cours de cette année passée, j'ai tombé dans l'orgueil, j'ai accepté la zizanie, donc je suis devenu une personne rebelle à la grâce du bon Dieu, révoltée contre la grâce du bon Dieu d'une façon ou d'une autre, et que le péché est rentré dans mon âme, parce que c'est ce que j'ai fait par l'orgueil, et bien à ce moment-là, il faut encore une fois se rendre compte et comprendre que le bon Dieu, dans sa miséricorde, peut changer une âme. Et c'est pour ça que dans cet évangile, on voit très bien que le maître du champ demande à ce qu'on n'arrache pas tout de suite l'ivraie pour ne pas détruire. Parce que le bon Dieu sait qu'il y a une possibilité de changer cette âme. Et même si une âme est encombrée d'ivraie, encombrée d'orgueil, encombrée de haine par exemple, Dieu peut dans sa miséricorde changer cette âme. Seulement pour changer cette âme, il y a un point de passage obligatoire. Certes, il peut y avoir des miracles de la grâce dans certains cas très particuliers, mais ordinairement, le point de passage obligatoire, c'est une bonne confession. Si je constate que l'ivraie a envahi mon âme pendant cette année qui passe, si je me rends compte que je n'ai pas vraiment, pour cette année qui arrive, début du mois de décembre, si je me rends compte que je n'ai pas vraiment la volonté de ne planter que du bon grain dans mon âme, ça veut dire qu'il faut que je passe par le sacrement de pénitence. Tous ces saints qui se sont convertis, reprenant les deux exemples que je viens de vous donner, de Saint Augustin, Sainte Marie-Madeleine, se sont convertis par le baptême ou une bonne confession. Qu'est-ce que va dire notre Seigneur Jésus-Christ à Sainte Marie-Madeleine? Va et ne pêche plus. Elle a changé complètement son âme. Il ne faut pas dire, mais monsieur l'abbé, mon âme est tellement envahie par l'ivraie, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Le bon Dieu peut faire des miracles. Parce que le bon Dieu peut faire deux choses. Il peut soit arracher directement ou indirectement l'ivraie qui est dans le champ, soit littéralement, il peut même dans certains cas empêcher l'ivraie d'arriver. N'oubliez pas qu'il y a deux moyens d'aller au ciel. Il y a la voie d'innocence. La voie d'innocence, c'est le bon Dieu qui empêche l'ivraie d'arriver dans ce champ. C'est assez rare. C'est le cas, par exemple, d'un bébé qui meurt juste après son baptême. Il n'y a pas d'ivraie dans le champ, il peut aller droit au ciel. Mais le bon Dieu, dans sa miséricorde, aussi permet que des âmes qui sont encombrées par l'ivraie puissent justement se purifier et que le bon Dieu va envoyer certaines personnes pour arracher l'ivraie et nettoyer l'âme. Et donc, littéralement, l'ivraie peut être transformée d'une certaine façon pour aller jusqu'à là. L'ivraie va être transformée en bon grain par l'action du bon Dieu. En quoi consiste cette action? Mais cette action du bon Dieu, c'est ce qu'on appelle la miséricorde. La miséricorde du bon Dieu, c'est ça. La miséricorde de Dieu s'exerce surtout, évidemment, sur ceux qui en ont le plus besoin. Un pécheur qui a une âme encombrée d'ivraie a beaucoup plus besoin de la miséricorde du bon Dieu qu'une âme qui est avec très peu d'ivraie dans son champ, parce que le champ était bien préparé, bien protégé contre le démon. Donc si je me rends compte que mon âme a été encombrée par l'ivraie au cours de cette année qui s'achève, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois justement aller me précipiter aux pieds du ministre de notre Seigneur Jésus-Christ et pour dire cette phrase qui ouvre toutes les portes. Bénissez-moi, mon Père, parce que j'ai péché. Et une simple bonne confession, mais une confession véritable. Attention, pas une confession de détail avec simplement la bouche qui parle, la langue qui parle, les lèvres qui parlent. Non, une confession de cœur. Une simple confession de cœur qui ouvre complètement la porte de la charité va arracher toute l'ivraie. Et une âme qui est encombrée de poison, d'orgueil, encombrée de haine, encombrée de révolte, peut justement, après une simple bonne confession, retrouver complètement la paix du bon Dieu. Combien de fois j'ai vu ça dans ma vie de prêtre? Et à ce moment-là, c'est le bon Dieu lui-même qui arrache cette ivraie, qui la met en fagot pour la brûler. Et ce feu représente le feu de la charité, mes bien chers frères. Le feu de la charité, Et c'est l'épître d'aujourd'hui aux Colossiens. Par-dessus tout, il y a la charité qui est le lien de la perfection, dit saint Paul, et que dans vos cœurs domine en souveraine la paix du Christ à laquelle aussi bien vous avez été appelés dans l'unité du même corps mystique. Seulement, est-ce que le bon Dieu peut rentrer dans une âme, j'irais, comme un voleur? Non. Il ne va pas rentrer avec un pied de biche. Il ne va pas arriver au milieu de la nuit, il rentrait par force, il frappe. Il frappe. Et malheureusement, nous avons la possibilité, littéralement, de dire au bon Dieu, je n'ai pas besoin de vous. Dehors. On nous refuse d'ouvrir la porte. Alors Dieu va refrapper. Il peut frapper par toute une série de circonstances. Ça peut être le ministre du bon Dieu qui frappe, ça peut être une situation, une circonstance de la vie qui frappe. Parfois, le bon Dieu frappe très fort, hein? Très très fort. Avec la mort d'un être cher, par exemple, avec des croix physiques, des grosses maladies, des cancers, des choses de ce genre, le bon Dieu peut frapper très fort. Et si j'accepte d'ouvrir la porte de mon âme et laisser rentrer le bon Dieu dans mon âme, à ce moment-là, il peut faire sauter tout l'ivraie. Est-ce que je suis capable de faire sauter l'ivraie par mes propres forces? Impossible. Donc si je veux faire sauter l'ivraie, il est absolument impératif, mes bien chers frères, que j'ouvre les portes de mon âme, et je vais ouvrir les portes de mon âme par cette phrase magique qui est absolument indispensable et que le bon Dieu attend. Bénissez-moi, mon Père, parce que j'ai péché. Et si malheureusement je refuse d'avoir cette humilité, parce que c'en est une, c'est une humiliation, de savoir s'agenouiller devant le prêtre en disant au prêtre, mon Dieu, bénissez-moi, mon Père, bénissez-moi parce que j'ai péché. À ce moment-là, le bon Dieu ne peut rien faire parce qu'il respecte notre volonté propre. Il ne va pas nous convertir. Dieu qui nous a créés sans nous, dit saint Augustin, ne va pas vous convertir sans vous. Il va demander une participation à ce mystère de la charité. Vous voyez, donc il ne faut jamais, jamais se décourager. Si je constate que l'ivraie est partout dans mon champ, que la zizanie est partout dans mon champ, que la haine et l'orgueil est partout dans mon champ, dans le champ de mon âme, qu'est-ce que je dois faire? Tomber à genoux. Tomber à genoux et dire au représentant du bon Dieu, pardonnez-moi mon Père parce que j'ai péché. Et à ce moment-là, le bon Dieu, dans sa miséricorde, après l'accusation des péchés, mais encore une fois, il faut qu'il y ait une grâce particulière pour pouvoir accuser ses péchés avec une contrition véritable, au moins une contrition imparfaite. Même si vous venez vous confesser parce que vous avez peur de l'enfer, c'est mieux que rien. N'oubliez pas ce qu'a enseigné saint Thomas, je vous l'ai souvent déjà dit, que lorsque le prêtre donne l'absolution, que vos péchés soient détruits, je vous pardonne tous vos péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le bon Dieu non seulement pardonne les péchés, mais transforme la contrition imparfaite en une contrition parfaite. Comme un feu dévorant qui nettoie toute l'âme. Et d'un seul coup, toute l'ivraie du champ est brûlée. Il n'y a plus que le bon grain. Alors après, évidemment, c'est à chacun d'entre nous de vérifier, de ne pas ouvrir la porte au démon. Parce que si je continue de laisser la porte ouverte ou la fenêtre ouverte, le démon va revenir et va replanter de l'ivraie, de la zizanie. Oui, mais bien, chers frères, comme il est important de comprendre toutes ces choses-là, de ne jamais se décourager. Le bon Dieu est plein de miséricorde à l'égard du pécheur repentant, mais il ne pardonne pas aux pécheurs qui refusent d'avoir cette contrition. C'est terrible parfois d'avoir des gens, bon, j'espère que c'est rarissime, au moins chez nos fidèles, mais c'est parfois terrible d'avoir des gens qui savent qu'ils doivent se confesser, qui n'arrivent pas à trouver la force de se mettre à genoux. J'ai rencontré des cas comme ça dans le passé plusieurs fois, des gens qui me disent, monsieur l'abbé, je ne me suis pas confessé depuis 5, 10, 15, 20 ans, je sais que j'en ai besoin, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Pas très longtemps, il m'est encore arrivé ça aussi. J'ai essayé de confesser une maman et j'ai voulu confesser le fils que je connaissais bien et qui m'a dit non, je ne veux pas me confesser. Qu'est-ce qu'on peut faire? Prière et pénitence, c'est ce que doit faire le prêtre justement, qui doit prier, qui doit faire pénitence, qui doit offrir la messe pour cette personne en espérant qu'un jour, est-ce que j'espère, un jour cette âme puisse s'ouvrir. Et que l'âme va venir frapper à la porte du prêtre et que le prêtre va pouvoir faire descendre justement cette charité du bon Dieu qui ne demande que ça, à descendre sur les âmes. Mais attention, encore une fois, il faut bien comprendre ça, la charité elle plane littéralement au-dessus des âmes et le bon Dieu ne va pas la faire descendre dans l'âme pour faire brûler toute la zizanie et l'orgueil. si on n'ouvre pas la fenêtre, si on n'ouvre pas la porte pour que cette âme puisse justement bénéficier de la miséricorde du bon Dieu. En même temps, il ne faut jamais, jamais se décourager. Il ne faut pas dire, mais monsieur l'abbé, pour moi c'est trop tard. Non, c'est jamais trop tard. Trop tard après la mort. Oui. Une fois qu'on est mort, on n'est plus dans le temps, on est dans l'éternité, on ne peut plus rien faire. Combien de fois j'ai vu avec la grâce du bon Dieu des choses extraordinaires, des gens qui se sont convertis au dernier moment. Les saints sont. La vie des saints rencontre toutes ces histoires magnifiques de gens qui ont pu se convertir au dernier moment, vraiment à la fumée des cierges. L'exemple classique, typique, c'est Saint Dismas. C'est peut-être le plus bel exemple. Le plus bel exemple de la miséricorde du bon Dieu, je pense que c'est Saint Dismas, le bon larron, qui a passé sa vie à offenser le bon Dieu. Et juste avant de mourir, qu'est-ce qu'il dit ? Il s'est content de dire au bon Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ qui meurt sur la croix, Seigneur, ayez pitié de moi. Souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume. Et qu'est-ce que fait notre Seigneur Jésus-Christ ? Est-ce qu'il impose une longue pénitence ? Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Pas demain ? Pas après 3 ou 4 mois ou 3 ou 4 années au purgatoire ? Non, aujourd'hui même, tu seras au paradis. La première personne à bénéficier de la miséricorde extraordinaire du bon Dieu, manifestée par sa passion, c'est un bandit converti. C'est un Dismas, canonisé par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ah oui, bien sûr, frère, ne nous décourageons jamais, mais en même temps, ayant cette force, comprendre que tout ce travail de conversion pour arracher l'ivraie et retrouver un champ bien, bien, bien propre, tout ce travail ne peut pas se faire par nos propres forces. C'est absolument impossible. Là, pour tout le monde, mais compris pour moi. Moi aussi, j'ai besoin de me confesser comme tout le monde. Et on a besoin de cette confession. Je vais peut-être sans doute vous surprendre. Je sais que je choque un peu certaines personnes quand je dis ça, mais c'est vrai que je me sens parfois plus prêtre encore au confessionnal que ça, à l'autel de la messe. Pourtant, l'autel de la messe, c'est l'autel qui va recevoir le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quand j'ai devant moi une personne qui ne s'est pas confessée depuis très longtemps, qui s'est battue contre ses tentations d'orgueil, ses tentations de désespoir, de découragement, et qui vient enfin se confesser et qui prononce cette petite phrase magique « Pardonnez-moi mon Père parce que j'ai péché, que je peux donner l'absolution à cette âme, allez en paix, que vos péchés sont pardonnés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » À ce moment-là, c'est là où on voit toute la miséricorde du bon Dieu. Je pense que la miséricorde du bon Dieu est encore plus palpable au niveau de la confession qu'au niveau de la Sainte Messe. Pourtant, la confession prend sa source, évidemment, dans la Sainte Messe. Alors passons, mes bien chers frères, pour la Sainte Vierge Marie. Si, pour une raison ou pour une autre, nous avons du mal à nous confesser parce que, l'orgueil est là, parce que le démon a travaillé, parce que l'âme est toute remplie d'ivraie, eh bien, passons pour la Sainte Vierge Marie. N'oublions pas que toutes ces grâces passent par elle. Il n'est pas question pour chacun d'entre nous, moi le premier, de recevoir la grâce de la contrition, attention, sans passer par elle. Parce qu'elle est médiatrice de toutes les grâces. De toutes les grâces. Pas simplement de certaines grâces, de toutes. Et qu'il n'y a pas une seule grâce de miséricorde du bon Dieu qui peut rentrer dans une âme sans passer par la Sainte Vierge Marie. C'est elle qui ouvre la porte, littéralement. Elle vient, elle ouvre la porte, et à ce moment-là, son Fils divin peut passer. Alors, demandons à notre Sainte Vierge Marie toutes ces grâces pour que nous puissions justement utiliser ces derniers jours de l'année liturgique pour nous préparer à une bonne confession, peut-être avant l'arrivée de la nouvelle année liturgique, pour que nous puissions ouvrir notre âme, purifier notre âme, nettoyer notre âme, embellir notre âme pour qu'elle puisse recevoir l'enfant Jésus avec son corps, son sang, son âme et sa divinité en la nuit de Noël. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.